Si nous essayons, alors on va passer à ce qui peut constituer l'hédonisme que je propose, en essayant de voir comment on peut être aujourd'hui épicurien. Qu'est-ce que ça peut bien signifier être épicurien aujourd'hui? Alors de fait, comme avec les mots dont je parlais tout à l'heure en disant qu'ils étaient à double sens ou à double entrée, un épicurien, c'est quelqu'un qui est soit disciple d'Épicure, soit bon vivant, dire dans le genre cigarette, whisky et petite pépée. C'est pas forcément la même chose. C'est même parfois contradictoire. Qu'est-ce que le plaisir chez Épicure? Et comment peut-on être aujourd'hui épicurien au sens premier? C'est-à-dire comment peut-on être aujourd'hui encore un disciple d'Épicure? Alors, Épicure était d'une constitution très chétive. Et moi, je pense, après Nietzsche, après la lecture de la préface au Gai Savoir, Nietzsche nous dit très précisément qu'on pense avec son corps, avec ses impuissances, avec sa chair, ses douleurs, sa souffrance, et pas du tout avec un cerveau qui flotterait dans un ciel éthéré, mais que c'est le corps tout entier qui pense. Et de fait, le corps d'Épicure est un petit corps. C'est le corps de quelqu'un de fragile, de malade, et qui va passer sa vie à souffrir et à tâcher de philosopher pour sauver sa peau. On philosophe toujours pour sauver sa peau, sauf les professeurs d'université qui ont d'autres objectifs, qui peuvent aussi vouloir sauver leur peau, mais ils sont plus rares. Donc, d'une bêtise, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Épicure. Donc, Épicure, il nous dit... Il faut savoir ce qu'est le plaisir, parce que le plaisir est le souverain bien. Et il nous dit qu'il faut pour ça travailler à ce qu'on pourrait appeler une diététique des désirs. Et il dit qu'il faut qu'on sache ce que sont nos désirs. Nous avons tous des désirs, ils sont les mêmes depuis Épicure jusqu'à aujourd'hui. Vous avez, nous avons aujourd'hui, les désirs qui étaient les désirs d'Épicure. Épicure nous dit qu'il faut partir d'un constat bien simple, il y a des désirs naturels et nécessaires. Naturels et non nécessaires, non naturels et non nécessaires. Qu'un désir naturel est nécessaire? C'est un désir qui est commun aux hommes et aux animaux. C'est-à-dire qu'il est naturel parce que les hommes et les animaux le connaissent, mais il n'est pas nécessaire parce qu'il peut être nécessaire parce que si on s'en dispense, par exemple, eh bien, on ne vit pas, on ne survit pas. Un exemple, boire quand on a soif, manger quand on a faim, voilà des désirs naturels et nécessaires. Si vous ne mangez pas quand vous avez faim, vous pouvez faire une grève de la faim, enfin bon, normalement, ça ne doit pas durer bien longtemps et vous allez mourir. Même chose avec l'hydratation. Donc voilà, les désirs naturels et nécessaires. Désirs communs aux animaux et aux hommes, ils sont naturels, et nécessaires parce que si vous ne satisfaites pas ces deux désirs-là, vous allez mourir. Désirs naturels et non nécessaires. Alors, vous avez la possibilité, par exemple, d'intégrer la sexualité. La sexualité, elle est naturelle, puisque les hommes et les animaux ont ça en commun, mais elle n'est pas nécessaire, nous dit Épicure, qu'a pas lu Freud, et pour cause, parce qu'il nous dit qu'elle n'est pas nécessaire parce qu'on peut très bien vivre sans sexualité. Bonjour les dégâts, mais c'est faisable, nous dit Épicure. Donc voilà, vous avez la sexualité, désir naturel et non nécessaire. Et puis vous avez des désirs non naturels et non nécessaires. Les honneurs, les richesses, l'amour de l'argent, ou ce genre de choses. De fait, il n'y a pas d'amour de l'argent chez les animaux. Il n'y a pas de désir de la Légion d'honneur chez les éléphants. Il n'y a pas de ce genre de choses chez les animaux. Donc c'est non naturel et c'est non nécessaire. Et Épicure nous dit, quand on a vu comment fonctionnaient les désirs, eh bien, on se dit que seuls doivent être satisfaits les premiers désirs, naturels et nécessaires, et que tous les autres sont des désirs superflus. Et qu'on peut très bien se passer de tout le restant. Pas besoin de sexualité, pas besoin d'honneur, pas besoin de richesse, pas besoin d'argent, pas besoin de puissance, pas besoin de toutes ces choses-là. Et la vraie sagesse consiste à se dépouiller de tous ces oripeaux pour ne garder que ça, la satisfaction des désirs naturels et nécessaires, parce que quand ces désirs-là arrivent, ils sont des douleurs. Le désir est toujours une douleur, c'est toujours une souffrance, le désir est un manque. Et pour combler ce manque, eh bien, il faut faire le nécessaire, et vous mangez quand vous avez faim, mais pas du foie gras, et vous buvez quand vous avez soif, et pas forcément de lichen. Donc, parce que là, on est dans du non-naturel, enfin, dans du naturel et du non-nécessaire. Donc, Épicure nous dit, voyez, le plaisir, c'est essentiellement la satisfaction du ventre. Il utilise cette expression qui va beaucoup faire contre lui, pendant des siècles, parce qu'on dira, évidemment, c'est une philosophie du ventre, donc du bas-ventre, et très vite, on va discréditer la philosophie d'Épicure, notamment Cicéron et les stoïciens, qui sont dans des perspectives politiques, on n'entrera pas dans les détails de ces choses-là, mais il y a un désir dans la République romaine de disposer des places Et c'est plus facile de laisser croire qu'on ne doit pas laisser des places de sénateurs, par exemple, aux épicuriens, qui ne sont que des gens qui ne pensent qu'au ventre. Et quand on ne pense qu'au ventre, eh bien évidemment, on n'a pas de perspective politique. Or, il y a des politiques épicuriennes, bien sûr, qui sont des politiques d'ataraxie. L'expression ataraxie, le mot ataraxie, suppose l'absence de trouble. Et quand vous avez supprimé le désir de faim ou le désir de soif en mangeant et en buvant, mais il nous dit un petit peu d'eau et un petit morceau de pain, eh bien vous connaissez l'ataraxie, le bonheur du sage. Voilà une définition de l'hédonisme, du premier hédonisme, parce qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir à quoi ressemble l'hédonisme de Leucippe ou de Démocrite. Mais voilà comment l'hédonisme apparaît dans l'histoire de la philosophie. Vous voyez bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec une philosophie de débauché, que ça a à voir au contraire avec une technique d'ascèse qui suppose que le plaisir, il doit être sculpté, il doit être construit. De fait, un petit peu plus tard, plutôt au 1er siècle avant Jésus-Christ, là on est dans les années 300 avec Épicure, Lucrèce arrive, qui lui, romain, hein, Épicure est grec, lui, il est à Athènes, l'autre est dans le cercle campanien, et il a très probablement, on ne sait pas qui il est, Lucrèce, on n'a pas d'image, pas de figure, on ne sait pas qui il était, probablement chevalier, mais on n'en sait pas plus, mais probablement plus grande santé aussi. Et comme on philosophe avec son corps, et quand on dispose d'une grande santé, on a une philosophie de la grande santé, il y a un épicurisme de la grande santé, qui est l'épicurisme campanien de Lucrèce, et puis des poètes, Catulle, Tibulle, Properce, ceux qu'on appelle les élégiaques. Et tous ces gens-là nous disent, mais bon, c'est un peu sévère, l'épicurisme d'Épicure, et il peut y avoir un épicurisme plus large, romain, et qui suppose, et là vous verrez qu'on n'est plus dans l'ascèse d'Épicure, mais qui suppose que tous les plaisirs et tous les désirs sont bons pourvu qu'ils ne nous aliènent pas. Et c'est ça la grande différence, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que chez les Romains, le problème, c'est pas de condamner, par exemple, la sexualité, comme Épicure le fait, assez probablement parce qu'il en est incapable, comme souvent, mais c'est de considérer que la sexualité, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi, mais qu'elle est bonne ou mauvaise en fonction de l'usage qu'on en aura, et qu'une sexualité qui nous aliène est une mauvaise chose. Une sexualité qui ne nous aliène pas, ça n'est pas une mauvaise chose. Et quand Lucrèce dit « si vous avez quelques désirs ou quelques envies pressants, rentrez au bordel, faites votre affaire, sortez et recommencez à philosopher, ne vous attachez pas, et vous verrez que finalement la question du désir se trouve facilement résolue ». Et Ovide le dit aussi, et Horace le fait savoir également. Donc on a une autre façon d'être épicurien à ce moment-là, et vous voyez que, outre les questions de corps, de figure et de personne, on a aussi des questions d'époque, c'est-à-dire qu'il y a un épicurisme qui peut être grec, puis qui ensuite va être romain, et cet épicurisme-là, eh bien, il est sujet à variation, et parfois à variation considérable. Donc, je ne vais pas faire l'histoire de l'épicurisme, encore qu'on pourrait, ce serait une façon intéressante de voir comment le concept évolue, mais vous avez le père fondateur, vous avez les disciples dans un premier temps, puis ensuite, des gens qui vont se réclamer d'Épicure tout le restant de leur existence, tous les siècles qui vont suivre, hein, je pense à Montaigne, qui lui aussi est un épicurien, mais qui est dans une logique du prélèvement. C'est-à-dire, Montaigne dit « ça, je prends, ça, je ne prends pas ». Il dit les atomes d'Épicure, j'y crois pas beaucoup, il rigole avec ça, ça doit être comme les chiffres de Pythagore ou comme les idées de Platon, ils peuvent pas avoir cru à des choses aussi sottes, nous dit Montaigne. Donc on est dans une logique du prélèvement, et il y a toute une série de philosophes qui, peu ou prou, peuvent, pas se réduire parce que ce serait un petit peu rapide, mais peuvent se comprendre comme des commentateurs ou des penseurs de la philosophie d'Épicure. C'est-à-dire que tous les hédonistes sont de près ou de loin des individus qui pensent à partir de ce qu'Épicure a donné et de ce que l'épicurisme antique a donné. Je conclus sur ce temps-là et j'essaie de voir comment, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle notre post-modernité, avec tout ce que vous savez, c'est-à-dire la Révolution française, avec la Révolution industrielle, avec le XXe siècle des totalitarismes, le stalinisme, le nazisme, avec Hiroshima, avec la guerre froide, la fin de la guerre froide, enfin, le XXe siècle est passé par là, nous le connaissons. Comment peut-on aujourd'hui se réclamer d'Épicure? Comment peut-on vivre en épicurien? Alors, il y avait chez Épicure ce qu'il appelait un tétrapharmacon, c'est-à-dire un quadruple remède qui nous permet de mémoriser ce qui est susceptible de nous permettre le bonheur. D'abord, la mort n'est pas un mal, nous dit Épicure. Le bonheur est susceptible d'être trouvé et les dieux ne sont pas à craindre et la philosophie rend possible toutes ces choses-là. On peut encore consentir à tout ça aujourd'hui. Les dieux ne sont pas à craindre. Ça suppose, l'hédonisme aujourd'hui, un athéisme. Qu'est-ce que l'athéisme ? L'athéisme, c'est devenu, ça a été longtemps une insulte. C'est-à-dire, on a, et encore aujourd'hui pour certains. Mais l'athéisme, ça n'est pas le fait de ne pas croire en Dieu comme le clergé souhaiterait que nous y croyions. Ça a pourtant beaucoup été ça. C'est-à-dire, on a fait de, par exemple, d'Épicure un athée. Épicure n'est pas athée, il est polythéiste. Il croit qu'il y a plusieurs dieux, que les dieux sont matériels et qu'ils sont dans les intermondes. Il y a plein de mondes, et entre les mondes, il y a des intermondes, et dans ces intermondes, eh bien, vous avez des dieux de forme matérielle qui sont là, et qui ne s'occupent pas du tout du destin des hommes, nous dit Épicure. Ça, ça fait un polythéiste, ça ne fait pas un athée. On a dit de Protagoras qu'il était athée aussi. Protagoras, un sophiste contemporain de Platon, il nous dit, lui, Protagoras, des dieux, on ne peut rien dire, ni qu'ils existent, ni qu'ils n'existent pas. Cette position-là, elle est toujours existante, elle est toujours possible aujourd'hui, et ça définit non pas l'athéisme, mais l'agnosticisme. Un agnostique, c'est quelqu'un qui dit « je ne sais pas ». Je ne sais pas s'il existe, Dieu, je ne sais pas s'il n'existe pas, je ne peux rien dire là-dessus, mais je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Donc on a confondu les polythéistes avec des athées, on a confondu les agnostiques avec des athées, on a confondu les déistes avec des athées, d'où le malentendu sur Voltaire, qui lui n'aime pas du tout les athées. Voltaire n'est pas un philosophe athée, et n'est pas un philosophe qui défend l'athéisme. L'encyclopédie, par exemple, de Diderot et d'Alembert, n'est pas un livre athée. Prenez l'article athée de l'abbé Yvon, et bien vous verrez que l'abbé Yvon pense même qu'on devrait infliger la peine de mort aux athées. Donc il y a des espèces de malentendus sur le Voltaire qui serait anticlérical et athée, et sur l'encyclopédie qui serait un grand ouvrage athée aussi. Pas du tout. Le siècle est déiste, et le déisme n'est pas un athéisme. Le déisme suppose que, un, Dieu existe, et que Dieu, la définition de Dieu dans le déisme, c'est qu'il est une instance qui rend possible le réel, mais comme une espèce de grand horloger. Et le grand horloger n'est pas responsable de l'avancée de la pendule ou de retard de la pendule. Donc le réel est produit par Dieu, mais pas sur le principe de sa volonté, par l'entremise des hommes. Donc vous voyez qu'effectivement, tout ça, ça suppose une distance à l'endroit de la théologie dominante, qu'on appelle le théisme, pour le coup, et le théiste dit « Dieu existe et il est responsable de tout ». Il est responsable de tout, de la mort des enfants, de la vieillesse des vieillards, de la souffrance des gens qui souffrent, etc. Donc le théiste, le déiste, l'agnostique, le polythéiste, tout ça, ce sont des gens qui croient en Dieu, en un Dieu différent, singulier, particulier, mais ce ne sont pas des athées. Spinoza, par exemple, a été considéré comme un athée, alors que lui dit « Dieu ou la nature, c'est la même chose. Dieu, c'est la nature ». Quand vous lisez sous ma plume, l'éthique, hein, qui paraît en 1677, quand vous lisez sous ma plume Dieu, mettez la nature. Quand vous lisez la nature, mettez Dieu. Ça fait une pensée panthéiste, identification du tout à Dieu. Mais ça ne fait pas de Dieu une figure à part, séparée, qui voudrait le monde, qui désirerait le monde, ou ce genre de choses. Donc l'athéisme, ça n'est pas ce que je viens de signaler, c'est-à-dire l'agnosticisme, le déisme, un théisme un peu hétérodoxe, un polythéisme, etc. L'athéisme, c'est clairement et franchement la négation de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Et ça, c'est très très tardif dans l'histoire des idées. C'est-à-dire le premier à dire clairement que Dieu n'existe pas, c'est mon héros parce que c'est un curé, et il s'appelle Jean Mélier, et qui écrit un testament, et qui donc, tout au début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1729, meurt en laissant un immense manuscrit qui est une attaque en règle contre Dieu, le christianisme, Jésus, les fables et toutes ces choses-là. Ça veut dire que l'athéisme arrive tardivement. C'est tardivement qu'on commence à dire que Dieu n'existe pas. Donc, première condition, je dirais condition de possibilité d'un hédonisme aujourd'hui, le fait qu'on puisse débarrasser, vider le ciel en disant que le ciel est une fiction, qu'il n'y a pas d'arrière-monde, qu'il n'y a que du réel, que du matérialisme, que des plans d'immanence, comme dit Deleuze, c'est-à-dire que des choses qui se passent sur un terrain horizontal. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de vie après la vie, il n'y a pas de vie avant la vie, il n'y a rien qui ressemble à ça, il n'y a pas d'âme immortelle ou éternelle, il n'y a pas d'âme qui survive au corps, et tout ça suppose une espèce de grande pensée joyeuse. Parce que finalement, quand vous savez que la mort, c'est la fin de tout, eh bien vous n'avez pas à craindre une espèce de damnation éternelle ou espérer un salut qui ne viendra pas. Donc il y a quelque chose d'apaisant dans l'athéisme parce qu'il évite que nous ayons des craintes sur notre éternité, sur notre avenir dans l'éternité. Donc première chose, effectivement, un des premiers remèdes épicurien qui marche encore aujourd'hui, l'athéisme, c'est-à-dire le fait que nous n'avons plus besoin de fables, de mythes, d'histoires pour les enfants pour se construire une existence et pour se structurer une existence. Les dieux ne sont pas à craindre, première chose. Deuxième chose, la mort n'est pas à craindre non plus. Pourquoi est-ce qu'on invente les dieux ? Parce qu'on a peur de mourir. Parce que probablement, les premiers hommes qui ont commencé à fictionner une vie qui continue malgré la mort sont des gens qui n'acceptent pas l'évidence de la mort et qui disent, devant le cadavre de celui qu'ils ont aimé, qui a parlé, avec lequel on a ri, avec lequel on a vécu, devant cette rigidité cadavérique, on se dit non. C'est du déni. La religion se construit sur le déni de la mort. Et parce qu'on se construit sur le déni de la mort, il y a du retour du refoulé. Ce refoulement de la mort génère les angoisses, les psychoses, les névroses, les douleurs et toutes les consommations de psychotropes ou toutes les consommations de somnifères ou de drogues diverses au sens large et au sens étroit du terme. Donc il n'y a rien à craindre de la mort puisque nous sommes un agencement de matière et ça c'est la conséquence du matérialisme, nous sommes un agencement de matière et la mort ne se définit que comme un désagencement de cette matière, une décomposition au sens étymologique. Il y a une composition de la matière et quand cette matière se décompose, eh bien vous n'êtes plus. Donc il n'y a plus la conscience qui vous permettait de souffrir ou de jouir. Donc vous n'avez rien à craindre de la mort. Épicure nous dit de toute façon c'est pas compliqué, la mort si elle est là je n'y suis pas, ou si je suis là c'est qu'elle n'y est pas, donc faites avec ça et c'est un remède assez pratique, assez efficace, parce que vous verrez que ce qui nous fait souffrir ça n'est pas la mort elle-même, c'est souvent un mauvais quart d'heure à passer semble-t-il, mais ce qui nous rend la vie impossible c'est l'idée d'avoir à mourir un jour, mais dites-vous qu'effectivement avoir à mourir un jour c'est pas tout de suite et que c'est pour plus tard. Et plus tard, c'est pas aujourd'hui, c'est jamais aujourd'hui. Sauf à un moment où ça devient aujourd'hui. Et quand ça devient aujourd'hui, c'est bien assez tôt d'avoir à rencontrer la mort en face. Il faut donc apprivoiser la mort pour être dans une logique hédoniste. Donc économiser les dieux, d'une part, et d'autre part, apprivoiser la mort. Ensuite, se dire que la philosophie est susceptible de générer du bonheur. C'est-à-dire que le rôle de la philosophie, c'est de dénuder les chimères, comme disait Diogène, c'est-à-dire de démonter les fictions et de regarder le réel en face. Nous n'avons aucun intérêt à être optimiste, c'est-à-dire à avoir le meilleur partout. Nous n'avons aucun intérêt à être pessimiste, c'est-à-dire à avoir le pire partout. Nous avons intérêt à être tragique. Le tragique, c'est celui qui voit le réel comme il est. Donc ni optimiste, parce qu'on est déçu, le réel n'est jamais aussi beau qu'on peut l'imaginer, ni pessimiste, parce que c'est pas aussi pire que ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut craindre, le pire n'est pas toujours certain, contrairement à ce que dit un proverbe espagnol. En revanche, le tragique suppose que nous puissions voir ce que nous sommes. Nous allons vieillir, c'est déjà le cas, là pendant que vous m'écoutez, on a déjà perdu une heure, nous allons souffrir, nous allons périr, nous allons nous faire trahir, nous allons subir le mensonge, nous allons aussi probablement mentir et toutes ces choses-là. Il faut regarder le réel comme il est et composer avec ça pour voir ce qui est essentiel et pour voir aussi ce qui ne l'est pas. Le philosophe se concentre sur l'être et laisse de côté l'avoir. C'est aussi une grande leçon d'Épicure et de la philosophie des épicuriens, des gens qui s'en réclament. Il y a effectivement un hédonisme de l'avoir, il y a aussi un hédonisme de l'être. L'hédonisme de l'avoir est une catastrophe. C'est l'hédonisme du capitalisme, du consumérisme, du libéralisme. C'est tout ce qui fait qu'on vous dit « plus vous avez, plus vous êtes ». Alors que les philosophes disent la plupart du temps « moins vous avez, plus vous êtes ». Et c'est plutôt dans ce cas de figure qu'il faut voir où est l'essentiel. L'essentiel n'est pas effectivement dans l'allure, dans ce qu'on représente, dans ce qu'on est dans le regard d'autrui, mais dans ce qu'on est véritablement, réellement. Donc il y a un mauvais hédonisme, qui est cet hédonisme consumériste, de la consommation, de l'achat, de la thésaurisation, de l'argent, etc. Et puis de l'autre côté, et tout ça, ce sont autant d'occasions de souffrir. Voyez le savetier financier, on n'a pas d'argent, on est malheureux, parce qu'on en voudrait. On en a, on est malheureux parce qu'on craint de le perdre. Et puis on a peur que la bourse tombe ou que ça s'effondre ou qu'on perde des dividendes ou ce genre de choses-là. C'est mieux d'avoir un rapport philosophique à ces choses-là. L'argent, on en a, c'est bien. On n'en a pas, c'est bien aussi. C'est pas essentiel. Les honneurs, c'est pas utile. Vous faites tout ce qu'il faut pour les avoir. Et puis quand vous les avez, vous me dites, ça n'est que ça. Vous êtes chevalier, vous voulez être, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'est l'ordre, mais enfin, vous voulez le grade au-dessus pour avoir une petite rosette rouge et puis une rosette encore plus rouge. Et puis, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment essentiel de courir après l'argent? Est-ce que c'est essentiel de courir après l'honneur? Est-ce que c'est important de courir après le pouvoir? Est-ce que c'est important? Il y a une vie après l'Élysée, nous a-t-on dit récemment, et c'est assez singulier que des gens qui aient passé leur vie à courir après ça découvrent que, de fait, quand on les est conduits, quand on les conduit vers la sortie, effectivement, il y a une vie après l'Élysée. Mais ça paraît normal à tout apprenti philosophe qu'effectivement, il y a autre chose à faire dans l'existence que de se polariser sur un hédonisme de l'avoir quand il faut un hédonisme de l'être. Alors,